En attendant de retrouver vos habitudes à la rentrée, on vous propose de découvrir cette nouvelle émission dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Vous aurez certainement reconnu la musique de la série télévisée Les Envahisseurs. Dans notre cas, ce ne sont pas des martiens, mais bien des êtres humains. Violents, conquérants, dominateurs, ils ont redessiné les frontières au gré de leurs ambitions, brassé les peuples, les idées, les langues et les religions. D'Alexandre le Grand à Hirohito, en passant par Attila, Gengis Khan ou la reine Victoria, ils ont conquis les plus grands empires de la Terre et, chacun à leur façon, ils ont changé le monde.
Alexandre avait la peau blanche, à ce qu'on dit. Mais cette blancheur s'empourprait, surtout dans la région de la poitrine et au visage. Son haleine était très douce, sa bouche et toute sa chair exhalaient un parfum agréable qui pénétrait même dans ses vêtements de dessous. Nous trouvons ce détail dans les mémoires d'Aristoxène. Il en faut peut-être attribuer la cause à son tempérament qui était très chaud et enflammé, car les parfums viennent de la coction des matières humides par la chaleur, à ce que pense Théophraste. Et voilà pourquoi les endroits secs et brûlés du monde produisent les plus nombreux et les meilleurs aromates. Car le soleil fait disparaître l'humidité qui, flottant à la surface des corps, opère la putréfaction. Mais la chaleur physique rendait Alexandre, semble-t-il, buveur et impétueux. Pourtant, quand il était encore enfant, il montrait de la retenue. S'il était en général fougueux et emporté, il avait peu de penchant pour les plaisirs des sens et ne s'y prêtait que très nonchalamment. Son ambition précoce gardait sa pensée grave et magnanime. Il n'aimait pas la gloire d'où qu'elle vint, ni toute espèce de gloire à l'instar de Philippe, qui se piquait comme un sophiste de facilité oratoire et faisait graver sur ses monnaies les victoires de ses chars à Olympie.
L'extrait que nous venons d'entendre, c'est une description du jeune homme, du jeune Alexandre, par Plutarque, lu par René Renault en 1955, dans l'émission radiophonique « Heure de la culture française ». Notre premier envahisseur est donc le prototype de tous les conquérants, le modèle historique du chef militaire victorieux, de l'aventurier, de l'explorateur des mondes inconnus. J'ai nommé, bien sûr, le roi de Macédoine, l'élève d'Aristote, le vainqueur de l'Empire perse, celui qui a amené avec lui la culture grecque jusqu'aux rives de l'Indus, cet homme qui occupe une place si particulière dans notre imaginaire collectif depuis 2400 ans, c'est Alexandre le Grand. Alors pour décrypter le mythe, évoquer la portée historique et psychologique du personnage, j'accueille aujourd'hui trois spécialistes d'Alexandre le Grand, chacun et chacune à leur manière. William Pillot, bonjour.
Bonjour.
Catherine Gollier-Bougassas, bonjour.
Bonjour.
Et tout de suite, pour commencer ce questionnement sur le personnage d'Alexandre, je me tourne vers notre invité qui est en duplex avec nous depuis Lyon, Nikos Kalampalikis, bonjour.
Bonjour.
Nikos, vous êtes professeur de psychologie sociale à l'université Lumière Lyon 2. Vos principales recherches et publications s'inspirent de l'approche des représentations sociales par le biais de projets portant sur l'identité nationale. Et vous avez notamment publié un livre issu de votre thèse à l'EHESS intitulé « Les Grecs et le mythe d'Alexandre, étude psychosociale d'un conflit symbolique à propos de la Macédoine », publié aux éditions de l'Harmattan. Et donc tout ça nous amène à la première question. J'aimerais vous demander, que sait-on vraiment d'Alexandre le Grand, né un 21 juillet de l'an 356 avant notre ère à Péla? Pourquoi est-ce que cette ville de Péla est importante d'ailleurs?
Elle est importante parce que c'était la capitale de la Macédoine à l'époque. Et donc du coup, effectivement, Alexandre le Grand est né là-bas. Ce qui est assez intéressant et assez compliqué aussi avec Alexandre le Grand, c'est le fait que finalement, il y a une colossale bibliographie qui lui a été consacrée, mais il y a aussi une fissure temporelle qui sépare son aventure et les premiers récits qui l'ont révélé. D'une part. D'autre part, il y a eu beaucoup de récits aussi et d'écrits sur lui, de nature, je dirais, davantage, non pas historienne ou historique, mais davantage légendaire par la suite.
Qu'est-ce que vous entendez par une fissure temporelle? Est-ce que vous pouvez nous donner un cadre, d'ailleurs, temporel? Et qu'est-ce que ça veut dire, une fissure temporelle?
C'est-à-dire que les premiers récits qui nous ont révélé les aventures, les péripéties d'un des protagonistes les plus remarquables de l'histoire du monde antique datent de environ 3 siècles après la mort d'Alexandre. Si on se base sur Diodore de Sicile, par exemple, si on se base sur Arrien, là, pour le coup, on est plutôt à 4 siècles et demi après la mort d'Alexandre. Donc, une fissure temporelle, une grande distance temporelle entre la vie et les conquêtes d'Alexandre le Grand et les premiers récits qui arrivent intégraux, en tout cas entiers, et qui ont été par la suite... qui ont servi de base quoi à plein d'autres récits.
Alors je sais que c'est une question qui tient très à cœur William Pilot, donc je me tourne vers vous William. Quelle est la fiabilité des sources à propos d'Alexandre ?
Oui, je souscris à ce qui vient d'être dit, mais j'aimerais apporter une certaine nuance quant à la question de la contemporanéité des sources documentant Alexandre. Parce que si on reste sur une vision, disons, très littéraire de l'histoire, effectivement, si on recherche des sources, pas forcément d'ailleurs complètes, hein, parce que Diodore n'est pas complet pour nous. Il le fut jusqu'à ce que les croisés de la 4e croisade, en brûlant Constantinople, détruisent le dernier exemplaire complet de la bibliothèque historique. On a des documents qui sont contemporains d'Alexandre. On a de la documentation archéologique. On a des frappes monétaires au nom, au type... d'Alexandre. Et puis on a surtout des inscriptions de l'épigraphie, des inscriptions de cités grecques qui ont salué l'arrivée d'Alexandre comme à Éphèse, à Priène,
et donc,
à Lyon.
Qu'est-ce que vous souhaitez dire ? C'est-à-dire qu'en fait, à la source écrite littéraire s'oppose une source première qui est une matière quasi archéologique ou épigraphique, c'est ça ?
Oui, je pense que c'est un enjeu important d'emblée pour poser la question en historienne, en historien d'aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas se cantonner au roman d'Alexandre ou à la Vulgate d'Alexandre telle qu'elle s'est élaborée, disons, entre Diodore de Sicile et Quincurse. On peut...
Vous rappelez les dates, s'il vous plaît.
Entre le 1er siècle avant notre ère et puis le 3e siècle de notre ère. Donc effectivement, comme notre collègue l'a rappelé, avec cette fissure temporelle. Mais on a tout de même une documentation contemporaine. On a aussi fragmentaire un journal de marche. On a le témoignage de Ptolémée, compagnon d'Alexandre, futur satrape puis roi d'Égypte. On a le témoignage de Callisthène, le neveu d'Aristote, qui fut l'historiographe du roi. Et donc tout ça, ce sont des gens qui sont contemporains. Et puis également Eumène de Cardia.
Alors, vous avez parlé d'Aristote. Nico, je me retourne vers vous. Quel est le profil psychologique? Quelle est l'identité de ce garçon qui grandit donc au nord de la Grèce dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Macédoine centrale, par opposition d'ailleurs à la République de Macédoine du Nord, qui n'est pas en Grèce.
Il était fils de Philippe II, donc il était déjà fils d'un roi. Il était élève d'Aristote. Effectivement, difficile de parler de caractéristiques psychologiques sans tomber, je dirais aussi, sur le côté fictionnel autour du personnage, voire aussi sur le côté filmique du personnage, qui a suscité aussi beaucoup d'intérêt, une relative actualité aussi. Ce que on sait, ce qu'on devine en tout cas le concernant, c'est qu'il avait une boulimie de pouvoir et vraisemblablement il avait un charisme hégémonique assez flagrant.
Mais alors, peut-être rappelons un peu qui est son père, c'est pas n'importe qui. Quels sont les grands accomplissements de Philippe II à la tête de la coalition grecque? Je me tourne vers William, du coup.
Alors, Alexandre est l'héritier de son père Philippe. C'est d'abord un héritage qui n'est pas évident. Hein. Un an avant la mort par assassinat de Philippe, Alexandre est tout de même exilé. Hein. Sa mère, Olympias, est effacée par un autre mariage. C'est une rupture familiale forte. Ce qui fait d'ailleurs que, dès l'Antiquité, des soupçons ont pesé à l'endroit d'Alexandre qu'on accusait d'avoir fait assassiner son père. Cela étant... Du point de vue de l'héritage politique, Alexandre dans la stricte continuité de Philippe II, au moins pendant la première moitié de son règne.
Et je me tourne vers notre troisième invitée, Catherine Gaulier-Bougassas. On fait un pas en avant, une incise. Nos invités parlent du roman, de la vulgate d'Alexandre par rapport à l'historicité du personnage. Pour vous, est-ce qu'il y a forcément une concurrence entre les deux? Ou est-ce que finalement on peut l'un se nourrit de l'autre?
L'un se nourrit de l'autre, effectivement, puisque d'emblée, il y a eu une appropriation vraiment, des appropriations passionnées du personnage. Et effectivement, après cette fissure temporelle, comme disait notre collègue, effectivement, les récits des historiens grecs et latins proposent déjà des interprétations extrêmement différentes d'Alexandre. Et puis vient aussitôt après ce texte qu'on appelle le roman d'Alexandre du pseudo-Callisthène, qui date du 3e siècle environ après Jésus-Christ, qui est écrit à Alexandrie par un auteur grec dont on ne connaît pas l'identité, ce n'est pas Callisthène. Et ce roman d'Alexandre se nourrit de sources, on dit traditionnellement roman d'Alexandre, en fait c'est une vie d'Alexandre le Grand, se nourrit des textes historiographiques, mais effectivement les réinterprète et les déforme, ou les transforme, les adapte en inventant différentes fictions. Et c'est ce texte-là qui va avoir un rayonnement considérable, mais vraiment considérable, supérieur à ceux des historiens, aussi bien en Europe, dans toute l'Europe, que qu'en Orient, puisqu'il va être réécrit dans toutes les langues, en fait.
Et sur ce rapport entre réalité et fiction, quelle place occupe la généalogie mythique ou mythologique d'Alexandre, donc qui, rappelons-le, par son père Philippe descend de Téménos, et par lui d'Héraclès et donc de Zeus, et par sa mère Olympias, qui est une princesse Molos, il descendrait d'Éaque et lui-même donc fils de Zeus. Comment est-ce que la mythologie construit le personnage avant même que le personnage lui-même rejoigne la mythologie?
Effectivement, déjà, il y a une histoire familiale complexe d'un point de vue historique, avec la répudiation dont mon collègue a parlé. Et effectivement, il y a toutes les mythologies d'origine, la référence à Héraclès, notamment, très importante. Mais aussi, ce qui est très intéressant et frappant, c'est que, pour en revenir au roman d'Alexandre du pseudo-Callisthène dont je parlais, c'est ce texte-là qui réinvente la filiation d'Alexandre, puisqu'il lui attribue comme père le dernier pharaon d'Égypte, Nectanébo. Et donc il y a toute cette il intègre finalement Alexandre à l'histoire égyptienne, donc comme fils de Nectanébo, ce qui vient justifier la conquête de l'Égypte.
Et ça, c'est une pure fiction ou Nectanébo était réellement exilé à la cour de Macédoine?
Non, il n'était pas du tout exilé à la cour de Macédoine, c'est une réelle fiction.
C'est une pure fiction, d'accord. Alors, je vois que à ma gauche, William Pillow n'est pas tout à fait de cet avis.
Si, je suis tout à fait d'accord. Si. C'est une pure fiction, mais elle a un sens historique aussi, puisque l'arrivée des troupes gréco-macédoniennes en Égypte a été saluée par la population comme une libération. Et Nectanébo a cette spécificité qu'il est le pharaon qui a chassé les Perses, lui aussi. Donc, l'assimilation d'un point de vue égyptien, Alexandre Nectanébo, est très logique.
C'est le libérateur des Perses, on va y venir un peu plus tard.
Voilà. Donc, bien sûr que c'est une fiction, mais elle a une signification historique, et c'est sans doute dans cette émission ce qui va nous intéresser, c'est la signification historique des fictions, des constructions mythologiques.
Et donc, sur le modèle de cette filiation inventée, avec le pharaon Nectanébo, sera élaborée une autre fiction d'origine dans le livre des rois de Firdoussi. Et antérieurement dans d'autres...
Alors on a fait un tel bond en avant géographique et temporel qu'il faut que vous nous rappeliez de quoi on est en train de parler.
Sera inventée donc une autre filiation...
Qui est Firdoussi?
C'est un auteur perse du début du XIe siècle qui reprend une filiation déjà établie dans des textes antérieurs selon laquelle donc Alexandre serait le fils de d'Arabe et le demi-frère donc de Dara, c'est-à-dire le Darius III, dont il va vaincre, qu'il va vaincre et dont il va conquérir l'Empire.
En fait,
si bien qu'il y aurait une filiation légitime entre Alexandre et Dara, et donc le Livre des Rois consacre, qui est la grande épopée nationale iranienne, consacre un livre entier à Alexandre et l'intègre complètement dans l'histoire perse.
Donc pour les Grecs, il est descendant de Zeus. Pour les Perses, il est descendant des rois perses. Pour les Égyptiens, rappelons-le, il va être déclaré descendant d'Amon-Ra. Il y aura même des représentations de lui avec des cornes de bélier comme le dieu Amon. Alors, Nikos, je me retourne quand même vers vous pour revenir un petit peu dans la genèse du personnage réel, psychologique, fantasmé. Est-ce que ce rapport très passionnel avec sa mère, Olympias, sorcière selon les uns, enchanteresse, princesse, intrigante, courtisane, et ce père violent, dominateur avec qui il est en rivalité, est-ce que, pour citer un autre prince grec, on peut parler d'un violent Œdipe chez Alexandre en grandissant ?
Probablement. Olympias, surtout, elle était instruite. Et donc, Alexandre avait là pour le coup des parents, un père et surtout une mère, extrêmement présents, extrêmement instruits. On peut également rajouter à cela le fait que dès l'âge de 13 ans, quand même, il a eu comme tuteur professeur Aristote, parce que son père a fait appel à lui pendant au moins 7 ans. Il était son professeur, son tuteur Aristote. Et donc, du coup, on a cette influence-là et on la retrouve après dans son épopée par la suite, dans ses conquêtes. Ce que je souhaiterais simplement ajouter à ce qui vient d'être dit, c'est que à l'époque, dans l'Antiquité grecque, la mythologie était la jumelle de l'histoire ou tout simplement son alter ego. Donc mythe et antiquité forment une dualité sémantique, culturelle, qui est inséparable. Et en parlant d'Alexandre le Grand, on retombe toujours sur cette dualité-là.
Alors justement, mythe ou réalité, est-ce qu'un petit garçon de 11 ans peut faire face à un cheval absolument terrifiant, redoutable, indomptable, qui s'appelle Bucéphale, et le dompter ? Je vous pose la question
aujourd'hui,
à vous, Nikos. Hein.
Aujourd'hui, sans doute, on dirait que non, mais à l'époque, c'était le cas. Et effectivement, Alexandre et la légende aussi d'Alexandre a été enrichie par cet exploit-là. Donc, Bucéphale l'a accompagné pendant extrêmement longtemps, aussi bien du point de vue de ses conquêtes, de ses expéditions, mais aussi du point de vue de la construction d'une légende autour de lui.
Oui, et rappelons-le, Bucéphale, donc, qui meurt vraiment sur les marches de l'Empire, hein, tout à l'Est, fait partie des rares chevaux dans l'histoire, peut-être le seul, à avoir sa propre ville, puisqu'il y a eu une Bucéphalie
qui est
aujourd'hui... une petite bourgade au Pakistan.
Tout à fait.
Et alors, toujours dans cette question de la construction du personnage, même si le rapport au père est complexe, même si, comme vous l'avez dit, il est chassé de la cour, il est exilé pour avoir insulté un des généraux du roi Philippe, il y a quand même un trait commun, une unité entre le père et le fils. On pourrait parler d'un ciment. Peut-être qui les unit encore plus que leur appétence commune pour la gloire et leur soif de domination de la Grèce. Ce point commun, c'est la haine, ou disons la terreur de l'ennemi ancestral, qui est le Perse. Darius III, le plus grand monarque du monde. À votre avis, le Darius ou les Perses en général, c'est un repoussoir ou au fond c'est un modèle que les Grecs cherchent à dépasser ?
C'est plutôt un énorme challenge pour eux de pouvoir les dominer, pour pouvoir là pour le coup étendre l'empire macédonien grec jusqu'au-delà quoi. Enfin franchement Alexandre le Grand est arrivé jusqu'à l'Inde, enfin donc c'est absolument immense son trajet. Et les Perses ont joué ce rôle-là, c'est-à-dire l'ennemi à abattre et un ennemi prestigieux aussi.
Parce que donc nous commençons cette série sur les envahisseurs avec celui qui pour nous est le modèle du conquérant, donc Alexandre, le modèle de l'empereur, si on veut. Mais pour les Grecs, il y a un empire beaucoup plus grand qui les menace d'ailleurs depuis des siècles. Hein. C'est l'empire perse. Est-ce que... Alors, William Pillow me dit qu'il n'est pas d'accord.
Non, à nouveau, c'est pas l'expression d'un désaccord, mais peut-être d'une nuance ou d'une recontextualisation des rapports entre ce qui peut être présenté comme des blocs nationaux, vous voyez, le peuple grec, le peuple perse, et ça, ce ne sont pas des réalités historiques de l'Antiquité. Il y a un empire fondamentalement polycentrique, multiethnique, qui exerce une fascination sur le monde grec comme sur d'autres aires culturelles, c'est l'empire perse achéménide. au sein duquel, il faut le rappeler, hein, le peuple perse, c'est une infime minorité, c'est une élite ethno-sociale. On pourra le rappeler peut-être, mais il y a plus de Grecs qui ont combattu du côté de Darius que dans les armées d'Alexandre. Et donc, il ne faut surtout pas avoir une lecture, disons, nationaliste type 19e siècle. Hein. Et ensuite, la haine des Perses est sans doute à nuancer. Alors, dès le début, si on reste sur le jeune Alexandre, à la cour de Péla, il y a le satrape Artabase, qui est un Perse. Il y a la fille d'Artabase, Barciné, qu'Alexandre retrouvera plus tard sur le champ de bataille et qu'il épousera. Ouais. Ce sont des amis d'enfance. Hein. Il y a toute une série de Macédoniens et de Grecs qui circulent entre la cour perse, les cours des satrapies, Péla et les cités grecques. Et donc, il y a une koinée, alors si on prend des termes plus récents, un middle ground, c'est-à-dire un terrain commun entre ces différentes cultures. Et de même, l'Empire perse ne menace pas les cités grecques. L'Empire perse, depuis un siècle déjà, lorsque Alexandre est enfant, hein, si on est encore dans l'enfant d'Alexandre, il est l'arbitre, il est le garant de la koiné eirene, c'est-à-dire de la paix commune des cités grecques. Cela depuis 386.
Alors, rappelons
notre ère. Donc, il faut nuancer ce propos. Les guerres médiques sont bien loin. Elles sont réactivées d'une manière idéologique par la propagande macédonienne, par Philippe II d'abord.
Oui, c'est ça.
C'est une construction politique. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on dit le point commun entre Philippe et Alexandre, c'est la haine des Perses. C'est une construction politique qui a pour but de réactiver une figure du barbare. Voilà.
Et alors, Nikos, peut-être une dernière question, parce qu'on va quitter la phase de construction intellectuelle. Quelle langue parle Alexandre ? Est-ce qu'il parle le grec classique du Stagirite, son maître, donc Aristote ? Est-ce qu'il parle le perse pour parler à sa future Dulcinée qui vit à sa cour ? Pour vous, quelle est la langue usuelle d'Alexandre au jour le jour ?
Il parlait sans doute une langue compréhensible par tous les autres, donc c'était certainement le grec, avec des tonalités, des mots, des expressions idiomatiques, en tout cas macédoniennes. Maintenant, les langues qu'il pouvait, là où les langues qu'il pouvait parler lors de ses expéditions, on a vrai de le dire comme ça, mais on ne sait pas grand-chose, quoi, en fait. En tout cas, il arrivait à se faire comprendre à un tel point que, comme ça a été dit et répété, il est arrivé à presque une année avant son décès à avoir été considéré comme divin, comme héritier des Olympiens. Donc, aussi bien les sources archéologiques, épigraphiques, ça a été mentionné également, témoignent du culte qui existait autour de sa personne pendant sa vie, pendant son vivant. Dans mon souvenir, Freud, dans l'homme Moïse, disait que malheureusement Alexandre n'avait pas trouvé d'Homère quoi pour raconter ses péripéties, ses aventures. Donc la langue parlée, c'était sans doute la langue du pouvoir hein, d'abord, mais aussi la langue des conquêtes. La langue de la mythologie, si je peux le qualifier ainsi.
Alors Alexandre n'avait pas trouvé Homère, mais il a trouvé Oliver Stone. Nous allons maintenant écouter un deuxième extrait d'archives sonores. C'est un passage du film Alexandre, donc d'Oliver Stone, sorti en 2004. Dans ce passage, le conquérant s'adresse à ses troupes avant la grande bataille de Gaugamélès.
Nous sommes ici aujourd'hui pour combattre en libre macédonien. Parmi nous, certains, et peut-être moi-même, ne verront pas le soleil se coucher sur ces montagnes ce soir. Mais je ne vous dirai qu'une chose. Une chose que savent tous les guerriers depuis l'aube des temps. Dominez votre peur! Et je vous promets que vous serez plus forts que la mort! Pour l'honneur, la liberté et la gloire de la Grèce.
France Culture,
Ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Qui a besoin de mère quand on a Hollywood ? Non, plus sérieusement, pour parler des accomplissements d'Alexandre à Gaugamel et ensuite, je me tourne vers William Pilot. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en histoire et en archéologie du monde grec antique à l'université d'Angers. Vous êtes également chercheur attaché au laboratoire Thémos du CNRS, spécialisé dans l'épigraphie, ainsi que dans l'histoire du fédéralisme et des institutions civiques et religieuses du monde grec antique. Qu'est-ce qui pousse Alexandre à passer la mer ? Qu'est-ce qui, dès 335, dès qu'il a pris le pouvoir, dès qu'il a ressoudé la ligue panhellénique qu'avait formée son père, qu'est-ce qui le pousse à aller vers l'Est plutôt que vers le Nord, vers les Balkans ou vers l'Ouest, vers l'Italie par exemple ? Pourquoi l'Asie mineure ?
Alors on pourrait presque transformer la question en « qu'est-ce qui ne le pousse pas ?» D'abord parce que cette expédition est déjà amorcée avant même son règne. Son père a lancé une première expédition. Le général Parménion, homme de toute confiance, a débarqué en Troade, il a ouvert les hostilités. Alors il a été repoussé par un grec d'ailleurs, hein, même nom, au service de Darius III, donc un mercenaire grec qui combat côté Achéménide. C'est une guerre qui s'est soldée donc, par un reflux de cette première offensive macédonienne, mais une tête de pont a été conservée, c'est la cité d'Abydos, stratégique pour le débarquement en Troade. Et donc effectivement, Alexandre, il est dans la stricte continuité, là encore, de la politique de Philippe. Mais plus largement, Alexandre, il est dans la stricte continuité d'une idée géopolitique qui a un soubassement idéologique qui est le panhellénisme. Par exemple, Isocrate, le grand orateur athénien Isocrate, dans une lettre à Philippe, avait enjoint Philippe d'unir tous les Grecs pour aller combattre le Perse. Donc c'était cette idée de réactiver la dynamique des guerres médiques, la construction d'un ennemi commun pour unir un ensemble divisé. C'est quelque chose qu'on connaît bien dans l'histoire du monde.
Alexandre, est-ce que c'est la première occurrence, ou d'ailleurs, ou est-ce que ce qu'on dit, on connaît bien dans l'histoire du monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît un classique de se trouver un ennemi pour forger une nation. On a beaucoup de d'événements historiques comme ça, mais est-ce qu'à l'époque, c'est une première ?
Non, c'est tout sauf une première. Hein. On pourrait déjà se référer, comme le feraient les Grecs, on pourrait se référer à l'Iliade et à l'idée que Agamemnon a besoin de fédérer son armée face à un ennemi commun. Hein. Et de l'autre côté, dans un discours, Priam, justement, cherche à unir des peuples divers face à l'envahisseur commun. Donc c'est une vieille histoire.
Alors justement, vous parlez de Troade, de l'Iliade, de Priam. Quel est le geste symbolique qui d'ailleurs vous intéresse vous particulièrement ? Je sais que vous avez étudié cette question de très près. Que commet Alexandre quand il arrive à Ilion ?
Alors,
rappelons le contexte.
Oui, tout à fait. Avant d'arriver à Ilion, en effet, donc Alexandre débarque. Alors, il est dans l'imitation d'Achille. Hein, c'est l'un de ses modèles revendiqués. Il a avec lui l'Iliade hein, dans un petit kibbouton, une petite boîte que Aristote, son précepteur, a annotée. Il l'emportera pendant toute la conquête. Hein. Donc, il rejoue l'Iliade. Il débarque en fichant une lance dans le sol. Il est le premier à débarquer comme le héros achéen Protésilas, à qui il a rendu des honneurs avant de débarquer. Le fait de ficher la lance dans le sol, c'est le droit de conquête, de Ructetos, la conquête par la lance. De ce point de vue-là, effectivement, ceux qui se considèrent comme les descendants des Troyens, les habitants grecs de la cité d'Ilion, pourraient avoir peur. Mais arrivé à Ilion, Alexandre va dépasser en quelque sorte le modèle d'Achille parce qu'il va proposer une réconciliation des mémoires, réconciliation des héros de la guerre de Troie, tant les héros troyens que les héros achéens. Par exemple, il va célébrer un sacrifice expiatoire, enagisma, en l'honneur de Priam, assassiné sur l'autel de Zeus Archaios par Néoptolème, fils d'Achille, c'est-à-dire l'ancêtre d'Alexandre. Donc, c'est une histoire familiale qui remonte à la guerre de Troie, comme l'a dit notre collègue. Hein, il y a la filiation, disons, par le sang, et puis il y a la généalogie mythique.
Je me tourne d'ailleurs vers vous, Catherine Gollier-Bourgassas. Dans la postérité littéraire et mythique qui va être faite d'Alexandre, est-ce que c'est l'Alexandre des accomplissements réels qui va compter le plus, ou finalement, est-ce que c'est cette filiation, ce trait d'Alexandre comme trait d'union vers l'Iliade ?
En fait, au Moyen-Âge, hein, le texte d'Homère n'est pas connu directement. Et il y a aussi, enfin, l'épisode dont vous parlez, hein, de la visite d'Alexandre à Ilion, n'est quasiment jamais retracé dans les textes médiévaux. Alors Alexandre, effectivement, s'engage bien en Orient, selon les auteurs médiévaux, c'est souvent dit, pour venger les Grecs, hein, des guerres médiques, mais il n'y a pas de référence à la guerre de Troie, ou assez rarement, parce que, sans doute, déjà, il y a la légende de l'origine troyenne des peuples de l'Europe occidentale s'élabore en dehors de toute référence à Alexandre. Et puis donc, il y a dans l'imaginaire occidental cette vision négative des Grecs qui prévaut, justement parce que les Troyens sont les ancêtres. Donc, cette recomposition de l'imaginaire fait que ce n'est pas du tout comme dans les récits antiques.
Donc, l'idéologie, disons pour prendre un anachronisme, l'idéologie d'Alexandre n'est pas celle qui sera véhiculée par la suite par ceux qui le célèbrent, justement. Peut-on dire, non ? Et alors, pour revenir à l'armée, quelle taille, quel armement, qui la compose au moment où elle passe en Asie ? On parle de quoi ? Une petite cinquantaine de milliers d'hommes au moment du débarquement ?
Oui, donc c'est une petite armée, hein. C'est environ 30 000 fantassins, 5 000 cavaliers. C'est une armée bien inférieure, par exemple, à celle que mène le roi de Sparte pendant la guerre du Péloponnèse un siècle plus tôt, hein. C'est une petite offensive militaire à l'échelle de l'Empire perse achéménide. Surtout, ce n'est pas la première incursion militaire grecque ou gréco-macédonienne sur les terres achéménides. C'est ce qui explique sans doute d'ailleurs que Darius III ne prend pas tout de suite la mesure de ce qui est une invasion qui a pour but de détruire l'Empire et de reprendre le trône au profit d'Alexandre.
Mais qu'est-ce qui fait la force de l'armée d'Alexandre ? C'est l'armement, c'est la discipline, c'est les fameuses phalanges ?
Alors, la phalange, assurément, c'est un outil qui a été forgé, là encore, par son père, qui a fait ses preuves d'abord sur les champs de bataille de Grèce. Hein, c'est la bataille de Chéronée en 338, à laquelle le jeune Alexandre participe. C'est cette cavalerie très disciplinée des Hétaïroi, c'est-à-dire des compagnons, qui a cette capacité tactique d'abandonner la poursuite de l'ennemi en déroute pour revenir aider les fantassins. Ça jouera dans toutes les grandes batailles d'Alexandre. Donc une solidarité qui est une filia, une amitié entre les cavaliers. Il y a également cette dimension. Alors, j'ai nuancé tout à l'heure le côté national, n'est-ce pas ? Le bloc grec. En revanche, il existe une nation macédonienne. C'est une armée nationale. C'est une armée qui est presque une armée de métier parce que ce sont des gens qui sont sur le pied de guerre depuis des années. Il y a une très forte cohésion qui est liée à la construction de... Alors, ça, c'est un anachronisme, hein, évidemment, mais c'est ce qui fascinait, par exemple, l'historien prussien Andreessen, d'un état-nation macédonien. Il avait, lui, évidemment, en tête la Prusse. Hein.
Quelques-uns y repenser.
Voilà. C'est une troupe qui est minoritaire en termes d'effectifs, mais qui est très solide du point de vue tactique sur le champ de bataille.
Quand vous dites qu'ils sont minoritaires, en face, combien d'hommes aligne Darius ? Ou les satrapes, d'ailleurs, de Darius ?
Oui, d'abord les satrapes. Alors, ce sont pas d'énormes troupes, d'abord, hein, qui font face dans la première partie de la guerre. Mais lorsque Darius, à partir de 333, 332, 331, réunit le banc et l'arrière-banc de ses forces, là, ce sont des armées considérables.
100 000 hommes, 200 000 hommes.
Comme à l'époque des guerres médiques, il faut se méfier des chiffres. Ouais. Si on se tourne vers les historiens antiques, on a des chiffres qui sont justement un peu mythologiques, hein, 500 000 hommes. Bon. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un réservoir humain quasi inépuisable, notamment lorsque les satrapies supérieures, c'est-à-dire celles d'Extrême-Orient, sont mobilisées. Mais ce sont des armées qui n'ont pas la même cohésion militaire, qui n'ont pas le même degré d'engagement. Et puis, là encore, on est à cheval entre le mythe et l'histoire, mais il y a le pouvoir charismatique d'Alexandre qui galvanise ses troupes.
Alors justement, comment sera... Donc Alexandre l'emporte à Issos, la bataille d'Issos. Comment est-ce que les provinces de l'Empire perse se rallient à Alexandre ? Est-ce que finalement on passe d'un chef étranger à un autre chef étranger, enfin la Phénicie, puis l'Égypte ? Ou est-ce que c'est le magnétisme, le charisme de cet homme exceptionnel ?
C'est un processus progressif. Donc, il y a évidemment, dès la bataille du Granic, il y a ce jeune Alexandre qui traverse le fleuve sous les traits ennemis, donc il y a un côté pont d'Arcole, puisque voilà. Il y a ensuite ces victoires qui paraissent extraordinaires, comme celle d'Issos et de Gaugamel. Mais il ne faut pas oublier tout de même les résistances. Les résistances qui, justement, ne sont pas seulement du fait de cette ethnie perse, mais qui sont, par exemple, le fait des cités phéniciennes. La plupart des cités phéniciennes choisissent de se rallier à Alexandre, mais Tyr lui résiste. C'est un siège qui dure plus de 6 mois. C'est un siège acharné et qui se termine par le massacre, la mise en esclavage des femmes et des enfants, la crucifixion des derniers résistants. C'est 30 000 personnes qui sont déportées, mises en esclavage. C'est un crime de guerre, dirions-nous aujourd'hui. Il y a eu des résistances farouches. À l'inverse, il y a des peuples, on l'a vu le cas de l'Égypte, c'est pour ça que le mythe de la filiation Nectanébo-Alexandre a tout son sens, parce qu'en Égypte, le satrape perse en place abandonne rapidement, et puis le peuple égyptien se rallie à Alexandre, d'où évidemment l'épisode de Siwa, etc. Mais il y a d'autres moments...
L'épisode de l'oasis de Siwa, rappelons-le, Alexandre va consulter les dieux égyptiens, les oracles égyptiens.
L'oracle
d'Amon, Zeus, Amon-Ra, et qui dit tu es le fils du dieu. Et alors, quand même, parlons une seconde de cette bataille qui est peut-être la plus grande bataille ou l'une des plus grandes batailles de toute l'Antiquité. 1er octobre de l'an 331 avant notre ère, dans la plaine entre Mossoul et Erbil, quelque part sur cette plaine de Ninive, la bataille de Gaugamel. Alexandre a fait exprès d'attendre pour que Darius puisse regrouper ses troupes. Est-ce que vous croyez à cette théorie de l'attente stratégique?
Oui, tout à fait. Alors d'abord, effectivement, c'est une sorte de topos littéraire des histoires de champs de bataille. La bataille de Marathon, c'est pareil. Milicide attend le moment opportun. Le kairos, c'est un concept très grec, l'art de saisir le kairos. Mais ça correspond, ça correspond à des réalités militaires. Ça correspond à l'art de la guerre hoplitique d'abord, puis phalangite d'autre part. Il faut un terrain qui soit favorable à cette minorité armée, mais qui peut déployer une charge de cavalerie et puis avancer en opposant un front très cohérent. C'est le sens de la phalange. Et puis, donc, il y a effectivement cet art du commandement qui est un fait historique qui caractérise Alexandre, qui est issu d'une école militaire qui est l'école macédonienne. Donc, oui, ça, c'est quelque chose d'avéré. Il y a le kairos, il y a aussi, donc, la métis, un autre terme grec qui caractérise Ulysse dans l'Odyssée, c'est-à-dire la ruse, l'intelligence tactique, l'intelligence de saisir les opportunités. Et puis, il y a la bravoure, l'arrêté. Il faut tout de même insister là-dessus. Alexandre n'est pas le seul brave. Les Macédoniens font preuve de bravoure, ce sont des guerriers expérimentés qui bénéficient, disons, d'une supériorité tactique du fait de leur cohésion militaire et de leur armement. Et c'est ce qui explique principalement cette victoire. Oui.
Donc Alexandre va écraser Darius, qui sera assassiné peu après par ses propres satrapes. Il va conquérir, annexer l'Empire perse. Je me tourne vers vous, Nikos Kalampalakis, pour vous poser une question sur la psychologie et la clémence d'Alexandre, qui choque beaucoup ses contemporains. Est-ce que c'est quelque chose qui s'explique par son caractère, selon vous, ou c'est une stratégie diplomatique, une stratégie expansionniste, ou même, dirons-nous, impérialiste? À votre
Certainement,
avis.
C'était de l'ordre de la stratégie, mais n'oublions pas ce qu'on disait il y a quelques instants, à savoir le fait que le personnage, aussi bien son parcours, mais aussi ses conquêtes, ses réalisations, sont entourés de ce que Paul Vane, si ma mémoire est bonne, qualifie d'un programme hétérogène de vérité, quoi, d'une vérité multiple, d'une vérité toujours plurielle et analogique, d'une vérité historique toujours en rapport avec le mythe, avec le fameux logos, pour citer mon grec. Donc, est-ce qu'il était véritablement clément ou plutôt stratégique? La réponse appartient aussi aux historiens, mais aussi surtout aux lecteurs, quoi, des récits qui ont suivi Alexandre.
Votre intuition, c'est qu'Alexandre écrivait sa propre légende d'une certaine manière au fur et à mesure de son action?
Évidemment.
Il était conscient d'inscrire son geste dans l'histoire?
Évidemment. Et je pense que les sources même épigraphiques le montrent, le démontrent. Assez clairement.
Alors, il y a un épisode après l'annexion pendant l'annexion de la Perse qui est particulièrement étonnant pour l'époque et puis même aujourd'hui finalement, c'est l'épisode des fameuses noces de Suse, donc dans la ville de Suse en Perse, où Alexandre marie 10 000 soldats ou fonctionnaires gréco-macédoniens avec 10 000 femmes perses ou mèdes. Je me tourne vers vous, Catherine Gollier-Bougassas. Est-ce que, par exemple, cet aspect-là d'Alexandre fait partie de la mythologie, de l'aura du personnage qui sera poursuivi au Moyen-Âge, ou est-ce que ça fait partie des épisodes qui sont un peu placés sous le boisseau?
Non, cet épisode n'est pas repris hein, dans les récits médiévaux. Effectivement, cette idée d'une union de l'Orient et de l'Occident, notamment par les mariages, non, cela n'apparaît absolument pas dans les récits médiévaux. Hein.
Et à votre avis, comment se perd d'ailleurs la sélection entre ce qui est intéressant, entre guillemets, dans Alexandre comme vecteur idéologique, symbolique, et ce qu'on omet, ce qu'on écarte?
Je pense que déjà c'est lié à la question des sources disponibles, hein, puisque les sources grecques ne sont pas disponibles. Hein, Arien, oui. Plutarque, Diodore de Sicile ne sont pas disponibles. Donc il y a les sources latines. Et parmi les sources latines, il y a notamment cet historien Horos, hein, qui écrit son histoire contre les païens au 5e siècle et qui est très violemment en défaveur d'Alexandre, hein, qui écrit un réquisitoire contre Alexandre. Alors cette œuvre va avoir un immense rayonnement, mais pas tant pour le portrait d'Alexandre, puisque les auteurs médiévaux vont plutôt glorifier Alexandre, mais cette œuvre va avoir un immense rayonnement parce qu'elle élabore la vision, elle contribue à élaborer la vision de ce qu'on appelle la translatio imperii au Moyen-Âge, c'est-à-dire le transfert de l'Empire des Babyloniens aux Perses, aux Macédoniens et à Rome. Enfin, d'un texte à l'autre, ça peut évoluer, mais c'est sur ces quatre puissances. Donc, il y a une logique providentielle à l'œuvre, et Alexandre est là, finalement, pour mettre fin donc à l'Empire perse et pour annoncer l'Empire romain.
Alors, pour parler quand même de l'Empire, disons, d'Alexandre, pourquoi, une fois conquis l'essentiel de l'Empire perse, une fois annexé, plus ou moins d'ailleurs volontairement, l'Égypte, hein, comme on l'a dit, plus la Phénicie, pourquoi est-ce qu'Alexandre continue de pousser vers l'Est, au-delà des marches de la Perse historique?
Alors là encore, je pourrais reformuler votre question. Au-delà de la Perse historique, oui, mais pas au-delà de l'Empire perse achéménide. Oui. Il marche dans les traces de Darius Ier. À partir du moment où Darius III est décédé, d'abord Alexandre châtie, il les châtie à la Perse en leur coupant le nez et les oreilles, donc dans le même supplice qui est décrit dans l'inscription de Behistun, un document épigraphique perse. Il châtie les assassins du roi et il prend la succession. Donc à partir de là, et ça il faut bien le comprendre, Alexandre est le grand roi achéménide. Il est pour reprendre l'expression de Pierre Briand, il est le dernier des Achéménides. Et donc, il va, à partir de là, restaurer la souveraineté achéménide, donc sur des zones comme le golfe Persique ou l'Hydaspe et l'Iphase, qui ont été sous domination achéménide. Il ne va pas au-delà. Alors ça, évidemment, c'est en rupture avec la tradition, disons, romantique du conquérant qui va aux frontières du monde. Et de cette réception qu'on a dans le Coran, hein, dans deux sourates du Coran, où, effectivement, Gog et Magog, les remparts du monde extérieur, etc. Donc, mais en fait, ce qu'il fait d'un point de vue historique, c'est qu'il restaure la souveraineté achéménide.
Mais donc, je vous pose quand même la question. Vous pensez que si les troupes ne s'étaient pas mutinées sur l'Idaps, donc sur l'affluent de l'Indus, Alexandre se serait tout de même arrêté là, c'est-à-dire aux frontières du monde achéménide? Vous ne pensez pas qu'il était tenté d'aller comme ça déverser sur la plaine indienne, d'aller encore plus loin en direction du soleil levant?
À la mort d'Alexandre, à Babylone, lorsque on sort ces hippomnématas, ces papiers, quoi, et qu'on lit aux troupes les projets du conquérant, il ne s'agissait pas d'aller au-delà, il s'agissait d'aller vers l'ouest.
Vers le sud, l'Arabie.
Oui, tout à fait. Mais ça, en quelque sorte, ça a été fait dans la mesure où l'expédition de Néarque, le golfe Persique, tout ça, qui permet de relier, c'est très important du point de vue perse-achéménide et donc du point de vue d'Alexandre, de relier le commerce maritime. Mais ces projets, c'est vers l'ouest. Et ce sont des liens, c'est le monde connu des achéménides et des Grecs et des Macédoniens. Tyr est la métropole de Carthage. D'ailleurs, au moment du siège de Tyr, toute une partie de la population tyrienne doit fuir vers Carthage. Et Carthage est, dans cette construction, disons, panhellénique, est une autre figure d'ennemi. Hein, si vous voulez, il y a deux figures d'ennemis du monde grec, à l'est, le Perse, à l'ouest, le Carthaginois. Et donc, au même moment, en Sicile, des guerres farouches opposent Grecs et Carthaginois. Et donc, c'est là qu'Alexandre tourne son regard. Mais bon, là,
vous brisez le mythe quand même. Moi, j'étais persuadé que si
je suis historien.
voilà, effectivement, c'est le conflit entre les deux, le rapport de force entre les deux. Donc, juste pour vous, qu'est-ce que c'est que la mutinerie quand même des soldats sur l'Idaps?
Alors, cette mutinerie, d'abord, qui se mutine? Ce sont des Macédoniens. Donc, les Macédoniens, ils n'ont pas un projet achéménide. Eux, ils veulent rentrer chez eux. Ils se sont enrichis, ils ont fait cette guerre de conquête, ils veulent rentrer en Macédoine. Et ils veulent que leur roi, qui est le roi de Macédoine, le fils de Philippe II, rentre chez lui. Ils ne comprennent pas que Babylone devienne la capitale de ce nouvel empire. Ils ne comprennent pas qu'on souhaite leur imposer des mœurs à la Macédonienne. D'ailleurs, les noces de Suze qui ont été évoquées, justement, sont en rupture complète avec cet éthos macédonien. Callisthène, par exemple, donc qui perd la vie pour cela. Hein. Il critique cette orientalisation, cette barbarisation d'Alexandre. Donc, ceux qui se mutinent, ce sont des Macédoniens qui ne souscrivent pas au projet achéménide et qui veulent rentrer chez eux. Donc, d'un point de vue historique, ça s'explique très bien.
Alors, ce qui nous amène à notre troisième archive.
Oui, j'ai cherché Porus, mais quoi qu'on puisse dire, je ne le cherchais pas afin de le détruire. J'avouerai que brûlant de signaler mon bras, je me laissais conduire au bruit de ces combats, et qu'au seul nom d'un roi, jusqu'alors invincible, à de nouveaux exploits, mon cœur devint sensible. Tandis que je croyais, par mes combats divers, attachés sur moi seul les yeux de l'univers, j'ai vu de ce guerrier la valeur répandue, tenir la renommée entre nous suspendue. Et voyant de son bras voler partout l'effroi, l'Inde sembla m'ouvrir un champ digne de moi. Lassé de voir des rois vaincus sans résistance, j'appris avec plaisir le bruit de sa vaillance. Un ennemi si noble a su m'encourager. Je suis venu chercher la gloire et le danger. Son courage, madame, a passé mon attente. La victoire à me suivre, autrefois si constante, m'a presque abandonné pour suivre vos guerriers. Porus m'a disputé jusqu'au moindre laurier. Et j'ose dire encore qu'en perdant la victoire, mon ennemi lui-même a vu croître sa gloire, qu'une chute si belle élève sa vertu, et qu'il ne voudrait pas n'avoir point combattu.
Nous venons d'entendre un extrait de la pièce de théâtre « Alexandre le Grand » de Jean Racine, jouée pour la première fois en 1665. Et la version qu'on entend était diffusée sur France Culture en 2023 avec Johann Kasiorowski dans le rôle d'Alexandre. On voit bien le rayonnement de ce personnage, donc mort le 11 juin 323 à Babylone, et qui pourtant continue de traverser les siècles et d'inspirer les écrivains, les artistes, les poètes. Pour parler de ce rayonnement, je me tourne vers Catherine Gaulier-Bougassas. Vous êtes professeur de langue et de littérature française médiévale à l'université de Caen-Normandie et membre du CRAHAM, le Centre de Recherche Archéologique et Historiques Anciennes et Médiévales, une unité de recherche du CNRS. Vous avez publié votre thèse sur les romans d'Alexandre français du XIIe siècle et vous l'avez publié sous le titre « Le roman d'Alexandre aux frontières de l'épique et du romanesque » aux éditions Champion. Vous avez également dirigé un programme de recherche qui a étudié la création du mythe d'Alexandre dans les littératures européennes, du Xe au XVIe, de la péninsule ibérique à la Russie et de la Grande-Bretagne à l'Italie. Quand, selon vous, commence la célébration culturelle d'Alexandre le Grand ?
Ben, elle commence très tôt, hein. Elle commence très tôt, déjà avec les premiers récits des historiens antiques dont on a parlé, et puis ensuite avec ce fameux roman d'Alexandre du pseudo Callisthène, écrit sans doute à Alexandrie, donc au IIIe siècle. Et ce texte a eu donc une postérité absolument colossale, aussi bien donc en Europe qu'au Proche-Orient et dans l'Orient perse et ensuite dans l'Orient indien. Donc c'est grâce à ce texte-là, finalement, essentiellement quand même, que Alexandre est devenu un héros universel, que des peuples très divers ont pu s'approprier selon des logiques diverses.
En parlant d'appropriation, on a parlé au début d'une fissure temporelle. N'oublions pas quand même que, par exemple, les Romains vivent dans l'admiration, le culte presque d'Alexandre. César se prosterne devant la statue d'un Alexandre divinisé à Gadès. Pompée se fait appeler Pompée le Grand parce qu'il est dans l'admiration d'Alexandre. Donc il y a quand même il n'y a pas eu un oubli, disons, de plusieurs siècles avant le roman d'Alexandre.
Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais les limitations d'Alexandrie, enfin l'imitation d'Alexandre, effectivement, est très importante chez les empereurs romains et elle va se poursuivre extrêmement longtemps, particulièrement donc en Europe occidentale, hein, pour ceux qui me me concerne. Et au Moyen-Âge, c'est indéniablement la question politique qui a imposé la figure d'Alexandre le Grand, qui a fait que, enfin, les questions politiques qui ont fait que qu'Alexandre le Grand soit finalement toujours d'actualité, soit toujours sur le devant de la scène et soit l'objet d'un très très grand nombre de récits. Et parmi ces questions politiques, peut-être l'une des plus importantes, hein, c'est la question de la croisade. Parce qu'Alexandre a été réinventé finalement comme précurseur de la croisade. Et le développement de l'écriture, enfin de textes sur Alexandre, est vraiment concomitant à l'organisation des premières croisades. Donc là, il y a un lien très très net. Et les auteurs...
Peut-être, avant de parler des croisades, est-ce qu'on peut souligner quand même le rôle qu'a eu peut-être l'Empire byzantin comme trait d'union historique, disons, en tant que célébration de la figure d'Alexandre. Est-ce qu'il y a eu un revival, pour employer un anachronisme, de l'image d'Alexandre empereur, enfin, ou précurseur de Byzance, d'une certaine manière, de la Grèce d'Orient ?
Les textes grecs antiques sont toujours lus à Byzance, mais comme je le disais, ils ne sont pas connus en Europe occidentale. Alors, le roman d'Alexandre, ce fameux, il est écrit à Alexandrie, mais après, il y a tout un ensemble de réécritures à Byzance. À Constantinople, et un certain nombre d'entre elles, enfin deux d'entre elles, sont traduites en latin au IVe siècle et ensuite au IXe siècle. Et ce sont ces traductions latines qui vont avoir une postérité immense donc en Europe occidentale.
Et vous parliez donc des croisades. Comment est-ce que le personnage Alexandre est réactivé comme une justification du voyage vers l'Est, du voyage vers Jérusalem ?
En fait, si cela varie d'un texte à l'autre, mais si on au XIIe siècle, par exemple, donc il y a d'un côté des récits écrits en langue française, hein, si on se place en France, hein, eux ne font pas référence directement à l'actualité des croisades, mais ils développent très très longuement les récits des conquêtes au Proche-Orient. Et donc, implicitement, il y a ce parallèle qui est tracé entre les exploits d'Alexandre et les exploits que l'on espère pour les croisés. Donc, Alexandre apparaît comme un modèle, effectivement, de stratège, qui réussit finalement tout ce qu'il entreprend. Mais au XIIe siècle, on a aussi l'écriture d'un texte en latin en France, l'Alexandréis de Gauthier de Châtillon, donc une épopée latine. Alexandre de Gauthier de Châtillon, évoque explicitement la question des croisades et présente explicitement Alexandre comme un exemple de réussite guerrière à suivre pour la conquête de l'Orient.
Alors, Alexandre est un exemple, mais si on comprend bien, il y a quand même une forme de tri sélectif sur le personnage. Je me tourne vers vous, Nikos. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Alexandre développé, mythifié, héroïsé au Moyen-Âge occidental correspond en fait réellement au personnage grec, aux valeurs de la culture grecque? Je pense notamment, par exemple, à sa sexualité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les textes ultérieurs, dans la figure mythique d'Alexandre, ou est-ce que ça a été perdu en cours de route?
Il y a pas mal d'éléments qui ont été perdus en cours de route pour finalement garder uniquement ce qui relève de la mythisation du personnage. Donc l'historiographie, là, pour le coup, comme un fait étroitement culturel. Donc la vérité autour de la figure historique d'Alexandre le Grand s'est confondue à une vérité relativement abstraite, culturelle, et parfois a été confondu avec elle. Ce qui est intéressant, ça vient d'être dit également par Catherine, c'est le fait que depuis au moins le Moyen-Âge, et les traductions aussi du récit d'Alexandre le Grand, aussi bien en latin mais aussi en arabe, ça a connu une diffusion auprès aussi des classes, des couches sociales qui n'allaient pas forcément à l'école, donc via l'oralité là pour le coup. Et c'est devenu, si on va rapidement, 17e, 19e siècle, un symbole, un synonyme de la lutte contre toutes sortes d'ennemis, une incarnation du bien, parfois même de la beauté, de nature assez métaphysique, avec les qualités divines d'Alexandre dont on a parlé, qui se sont accentuées. Donc la tradition a fait de lui une leçon morale, et sa fonction sociale, là pour le coup,
C'est totalement, complètement presque, détaché du contexte historique qui lui a donné naissance.
Cette double filiation occidentale et orientale, on va y revenir, mais j'ai quand même une petite question à poser sur le Moyen-Âge, parce que c'est un contre-exemple, ce que je trouve intéressant. Pourquoi est-ce que le roi de France, Henri, qui épouse Anne de Kiev, une descendante des Macédoniens, décide d'appeler son fils Philippe au lieu de l'appeler Alexandre? Pourquoi est-ce que Philippe est devenu le nom des rois de France? Parce qu'ils étaient fiers de descendre de Philippe de Macédoine et on n'a jamais eu de roi de France qui s'appelait Alexandre, Catherine?
Bah ça, on ne sait pas trop. Effectivement, il y a sans doute eu l'influence d'Anne de Kiev. Voilà. Après, c'est vrai que les rois de France, au XIIe, XIIIe et même au XIIe, XIIIe, s'intéressaient très peu finalement à au texte écrit en français. Et ça s'intéressait plus au texte écrit en latin. Il y avait toute l'influence aussi des récits ecclésiastiques qui véhiculaient globalement quand même une image assez négative d'Alexandre.
Pourquoi ?
Ah ben c'est la tradition d'Orose, enfin qui notamment, hein, c'est l'Alexandre tyran, tyran sanguinaire, fléau de l'Antiquité, héros païen évidemment, enfin un personnage païen condamné pour sa démesure, son orgueil, ses crimes, etc.
Et à l'inverse, en Orient, émerge la figure de Iskandar, qui est légendaire, qu'on trouve jusqu'à Samarcande, on a l'impression de le croiser presque, pour avoir voyagé là-bas, je peux vous le dire, c'est incroyable, hein. On a l'impression de le croiser, qu'il est presque vivant, les gens en parlent comme d'un ami presque. Comment émerge Iskandar, donc vous l'aurez compris, Alexandre, notamment dans le Coran, puis dans les traditions islamiques d'Orient?
Eh ben dans le Coran, effectivement, il y a cette sourate 18 hein, qui est consacrée à Dhul-Qarnaïm, hein, pas à Alexandre. Hein. Et après, selon les exégètes du Coran, ce Dhul-Qarnaïm est identifié ou pas à Alexandre le Grand. Mais de fait, comme il y a eu dans le monde arabe tout un ensemble de réécritures du roman d'Alexandre du pseudo-Callisthène, là, dans ces réécritures arabes, Alexandre est identifié à Dhul-Qarnaïm et Alexandre devient le héros de l'islam. Il est converti donc à l'islam, en général par Aristote. Et ensuite, sa mission, finalement, c'est de propager l'islam dans l'univers qu'il conquiert. C'est la justification de ses conquêtes. Il est entouré d'un prophète, en général, ou parfois de plusieurs. Et donc, il avance en Orient pour apporter le monothéisme. Et il est élu, effectivement, par Dieu pour bénéficier de tout un ensemble de révélations divines.
Et un peu partout en Orient, dans les cavernes, dans les montagnes, on annonce qu'il y a le tombeau d'Alexandre, le corps d'Alexandre. Dernière question, parce qu'hélas, il va falloir terminer cette passionnante émission. Où est enterré Alexandre? Je me tourne vers. Je pose la question à $1 million. Est-ce qu'il est réellement en Égypte, comme le croyaient les Romains? Est-ce qu'on va trouver un jour son tombeau?
On ne peut pas vous le dire.
Vous savez, Nikos, mais
j'ai ma petite idée. Vous savez, Bucéphale était probablement originaire aussi, comme cheval, là, pour le coup, de ma région natale. Donc voilà, j'ai un certain nombre d'informations.
Vous êtes tenant de la thèse macédonienne
du
tombeau au nord
publiquement,
de la Grèce.
Voilà.
D'accord. Et vous, William, où est-il enterré?
D'un point de vue historique, ce qui est intéressant, c'est que la localisation, la captation de la dépouille d'Alexandre a été un enjeu de rivalité parmi ses successeurs. Il aurait dû quitter Babylone dans un char de type achéménide d'ailleurs pour être enterré à Pella, mais Ptolémée a détourné le cortège funèbre pour le faire enterrer à Alexandrie.
Puisque, rappelons-le, la dynastie d'Alexandre a eu très peu de postérité. Par contre, les diadoques, les principaux généraux, amis, compagnons d'armes d'Alexandre, eux ont fondé des grands empires, l'empire ptolémaïque, les Lagides en Égypte, les Séleucides en Perse, etc. Ça nous amène à le dernier extrait sonore, les Titans, par le compositeur grec Nikos. Vous m'entendez, grec Vangelis, dans la BO du film d'Oliver Stone, Alexandre, en 2004. Merci Catherine Gaulier-Bougassas, merci William Pillot, merci Nikos Kalampalikis d'avoir été avec moi pour évoquer le destin tragique, mythique et grandiose d'Alexandre le Grand. C'était le premier épisode de notre nouvelle série Les Envahisseurs, une série d'Alfred de Montesquieu préparée par Sophie Leiner avec les archives de l'INA, réalisée par Rafik Zénine, avec à la technique aujourd'hui Manuel Couturier et Chantal Nouvelot à Lyon. Vous pouvez retrouver toutes nos références bibliographiques et réécouter cette émission en podcast sur l'appli Radio France.